La midinale, la matinale libre, curieuse et impertinente de Radio Piquet.
On sifflote ou pas? Non, trop tard.
Ok, on est de retour dans la deuxième partie de la midinale. On est toujours le 13 mai et de quoi est-ce qu'on va parler?
Donc, Matt, tu vas nous parler d'enfermement.
Mmh.
Après, on entendra Mathilde pour sa petite chronique. Et puis après, moi, je vous parlerai d'un livre. Mais du coup, on commence par toi.
Ouais. Alors moi, aujourd'hui, j'avais envie de vous donner des nouvelles un peu de ce qui se passe à l'intérieur des CRA. Du coup, les CRA, c'est les centres de rétention administratifs. Autrement dit, des prisons pour les personnes sans papier. J'en avais déjà parlé quelques semaines dans la midinale, mais là, ça a pas mal bougé ces dernières semaines. Et en fait, on en entend peu parler. Il y a par quelques collectifs qui luttent contre l'enfermement, qui relaient un peu ce qui s'y passe, on n'entend pas beaucoup parler. Du coup, pour ça, j'ai écouté une des dernières émissions de L'Envolée. L'Envolée, pour ceux qui connaissent pas, c'est un journal, mais aussi une émission une fois par semaine sur Fréquence Paris Pluriel, qui cause d'enfermement, de lutte anticarcérale et de ce qui se passe à l'intérieur des tôles. Et depuis quelques mois, la dernière émission de chaque mois est consacrée aux luttes à l'intérieur des centres de rétention. Du coup, la dernière date du 26 avril et on va commencer par écouter deux extraits à suivre. Le premier, c'est l'introduction de leur émission où il et elle expliquent un peu pourquoi c'est important de s'intéresser aux luttes des personnes retenues dans ces centres de rétention. Et un deuxième extrait qui est le dernier appel qui vient de l'intérieur du centre de rétention de Vincennes.
Donc aujourd'hui, c'est l'émission spéciale CRA, comme tous les derniers vendredis du mois. Et du coup, en fait, les CRA, c'est les centres de rétention et c'est les prisons où l'État enferme les personnes qui n'ont pas de papier.
Ouais, et du coup, on essaye dans le moment de cette émission à chaque fois de rappeler pourquoi en fait on décide aussi de faire une émission de L'Envolée sur les centres de rétention. On rappelle que à L'Envolée, on est contre tous les enfermements, qu'en fait on essaye de donner voix à toutes les luttes auxquelles nous on est connectés sur ces lieux d'enfermement. Effectivement, ces derniers mois, en fait, on a pas mal donné la parole à des gens, des copains, des copines de l'intérieur. Juste pour rappeler, donc un centre de rétention, c'est ce que tu disais, c'est une prison pour sans papiers. Que depuis le 1er janvier, c'est passé à 3 mois, que quand ça a été créé, en tout cas quand ça a été officialisé, le centre de rétention, c'est 3 jours. Le centre de rétention, officiellement, ça a pour vocation de déporter les gens, et en réalité, c'est un truc qui mêle un peu les deux, quoi, qui est à la fois un endroit où on expulse massivement les gens. L'année dernière, c'est presque 20 000 personnes qui ont été déportées. Et c'est aussi un endroit où on enferme les gens et on punit les gens d'être sans papier, avec l'idée de marquer les corps, les esprits, que les gens ils se souviennent et que le mot à l'extérieur il se diffuse, qu'il ne faut pas se révolter, etc. Qu'en fait, derrière chaque contrôle d'identité peut se cacher un placement en centre de rétention et que derrière chaque dénonciation du patron, pareil, quoi.
Et puis, il y a des gros passages entre la prison et le centre de rétention. Mmh. Déjà que les prisons en France, c'est 30-40% d'étrangers. Mais après, il y a beaucoup de gens qui passent de la prison direct en CRA maintenant avec la double peine, qui après reviennent à la prison. Donc tout ce système est lié, tout ce système de contrôle social. Et puis même le lien entre les prisons et les CRA et les HP, ce qu'on voit souvent aussi en CRA. Donc finalement, si on parle d'un lieu d'enfermement, il faut penser à tout ce système qui les rassemble et qui sert à faire peur aux gens, à les intimider, à les rabaisser, qu'ils n'osent pas se rébeller.
Ouais, c'est ce qu'on. En fait, on discutait juste avant l'émission et on se disait exactement, enfin, un peu à nouveau comment parler du centre de rétention et c'est quoi sa place dans l'enfermement. En fait, on se disait que c'était un peu de la même manière, enfin en tout cas d'une manière un peu différente, mais sur des bases un peu pareilles, les mêmes trucs que les enfermements psy, c'est-à-dire c'est hyper invisibilisé par l'État, y compris dans son outil répressif, quand il veut le visibiliser, quand il veut montrer qu'il a, comme là en ce moment avec le mouvement des Gilets jaunes, ou quand dans les quartiers ça s'embrase, en fait, il y a un truc de l'État, il essaye de jouer des muscles, et en fait à ce moment-là, l'État, jamais il montre les centres de rétention, jamais il montre, même pour traiter la question de l'étranger, en fait, de manière globale, il s'en parle pas tant que ça, quoi. Et du coup, c'est un truc que nous, on pense qu'il est hyper important de visibiliser. Et ici, on essaie d'être un maximum le relais de ces luttes individuelles et collectives. Pour rappel, ces derniers mois, il y a eu pas mal de luttes dans plein de centres de rétention. Il y en a toujours eu des luttes, mais en tout cas, il y a eu pas mal de luttes collectives relayées à l'extérieur et connectées avec l'extérieur. La semaine dernière, ça a repris au centre de rétention de Vincennes, au CRA 2B. Et donc là, on voulait commencer l'émission par un communiqué qui est sorti cette semaine du centre de rétention de Vincennes suite à une grève de la faim de plusieurs jours.
Nous vous écrivons cette lettre avec toutes les blessures dans nos cœurs et corps, derrière les barrières de prison que appelle CRA. Il n'existe pas de justice ni les droits de l'homme. On se fait violer mentalement chaque jour par leur harcèlement. Nous écrivons cette lettre et nous savons bien que ça ne changera rien. Nous avons vécu beaucoup de problèmes avec cette dictature de la police. Nous avons fait une grève de la faim pendant 5 jours et après, ils nous ont obligés à manger par la force. S'il vous plaît, nous avons besoin de votre aide pour nous libérer de cet enfer parce que nous ne sommes pas des criminels et la liberté, c'est d'abord dans nos cœurs. Les retenues du bâtiment B2 du CRA de Vincennes.
Ouais.
Ouais, voilà. Du coup, ça, c'est le dernier appel de gens qui sont retenus au centre de rétention de Vincennes. Mais il faut savoir que c'est pas... Les appels de l'intérieur des centres de rétention, ils se multiplient depuis quelques mois, que ce soit Rouen, Lyon, Vincennes, Rennes, et que c'est vraiment des appels au secours sur les conditions de rétention, sur... les violences des matons, je sais même pas si on les appelle des matons dans les centres de rétention, mais que les conditions d'enfermement sont vraiment, vraiment atroces. Et je crois que ces personnes ont vraiment besoin que leur parole soit relayée et qu'il se passe quelque chose, quoi. Et du coup, depuis quelques semaines, la révolte est grandie à l'intérieur d'autres centres de rétention, notamment à Lyon, où des retenus ont tenté de s'évader le 13 avril. Et du coup, on va écouter un appel téléphonique qu'il y a eu pendant cette émission, qui vient de l'intérieur du centre de rétention de Lyon. Voilà.
Allô, bonjour.
Ouais, donc vous nous appelez du CRA de Lyon, c'est ça ?
Ouais, c'est ça.
Bah, du coup, est-ce que vous voulez raconter un peu ce qui s'est passé ces dernières semaines ?
Ouais.
Ben on vous écoute, là t'es en direct.
Pardon ?
Oui, tu es en direct. Tu peux nous raconter tout ce que tu veux sur ce qui s'est passé ces dernières semaines à Lyon. On est là pour ça.
Ouais, ok. Écoute. Il y avait des évasions.
Ok, cool.
Et puis, après les évasions, les policiers d'ici étaient un peu... un peu méchants avec nous. Ils nous mettaient ils sont déchargés sur nous, ils nous tapaient avec les crémogènes. Et puis, ils nous fermaient à 8h.
Ok.
Et puis,
dans les chambres
en gros, on a rien le droit de dire, on a le droit à rien faire, les visites étaient coupées.
Ils ont coupé les visites, donc ils ont complètement interdit les visites?
Pas complètement, mais pendant quelques temps. Mmh. Voilà, okay. Et bref, on est traité comme des sauvages un peu. Mmh. Et dès qu'on parle, on dit ouais, ça va pas. Ils disent on s'en bat les couilles. C'est tout ce qu'ils savent dire, ils nous parlent mal, ils nous répondent mal. Et à chaque fois, nous, on se manifeste pour avoir ce qu'on veut, ils nous mettent au trou. Dans une cellule, il n'y a rien, il n'y a pas de... C'est comme mon métal. Mmh. Et puis voilà, c'est tout ça, quoi. On paye les frais de ceux qui sont barrés, quoi.
Mmh. Et juste, ouais, là, du coup, dans votre bâtiment, vous êtes combien ?
Enfin, notre bâtiment, on est à peu près... On est entassés comme des poissons, si tu veux. On est 5, 6 par cellule.
Il y a combien de cellules?
Cellules vides, mais ils sont fermés. Et puis nous, on est entassés. Il y en a qui dorment par terre, il y en a qui dorment dans les lits, mais c'est pourri, c'est sale, c'est dégueulasse. Il y a des fuites dans le couloir, il y a les murs, ils sont dégueulasses. Il y a tout qui est dégueulasse, quoi.
Ok. Et vous êtes en contact avec les gens des autres bâtiments un peu? Ça s'est révolté un peu dans tout le CRA ou plus dans votre bâtiment?
Il y avait les manifestations dehors, tout le monde y manifestait de l'intérieur, voilà. Mais on était enfermés, mais les policiers essayaient de cercler pour pas qu'on crée trop, mais quand même on a fait notre possible. Mais voilà, ils nous ont rentrés, enfermés, quoi.
Ça c'était mardi, ça? Non.
Non, ça c'était il y a même pas deux jours, quoi, quand il y avait la manifestation, là, c'était hier ou avant-hier.
Ouais, et en fait, cette manifestation, elle faisait suite au fait qu'il y avait eu...
Parce que tu racontais, oui.
Ouais, une tentative de suicide bien vénère.
Ça, il y avait, tentation de suicide, ça n'a rien à voir avec l'évasion.
Ouais, non.
Chose. Mais... Ouais, lui, il voulait pas le prendre. Parce qu'il avait des soucis, il demandait juste des médicaments, il voulait pas lui donner des médicaments, le mec il se sentait pas bien, et puis voilà, il en avait marre, plus le mec il vient de la prison, il sort de la prison, et puis il a trop de soucis dans sa tête, et la seule chose qu'il a trouvé à faire c'est de se suicider. Et voilà, et ici ça se passe mal tous les jours, ça se passe mal avec les policiers, avec... Bref, ils ne respectent pas, quoi. Il y en a, ils sont gentils, mais il y en a, ils sont méchants. Et voilà, il y a toutes sortes de policiers bizarres.
Mais par rapport à l'évasion, on a entendu qu'il y a des personnes qui ont essayé aussi de s'évader, mais qui n'ont pas réussi. Qu'est-ce qui s'est passé avec ces personnes après, par rapport aux flics? Qu'est-ce qu'ils ont fait?
Ces personnes-là, ils sont tous en prison.
Ah ouais.
Et vous avez des nouvelles un peu?
Hein?
Vous avez eu des nouvelles?
Bah non, parce qu'ils sont en prison, on n'a pas de nouvelles d'eux. Moi, j'étais avec eux en garde à vue. Après, ça va, parce que j'ai pas tenté de me sauver du centre, j'ai pas voulu m'évader. Et puis moi, ça va, ils m'ont juste donné une provocation au juge d'ici 6 mois.
Mais du coup, pourquoi t'étais en garde à vue, toi?
C'est justement pour l'évasion, parce que apparemment ils me reprochent qu'ils m'ont vu dans la caméra aider les autres, mais moi, j'aurais dit que c'est la vérité, que les autres m'ont mis la pression pour aider, quoi.
En même temps, on te rappelle que là tu es en live, donc fais attention à ce que tu dis si tu vas aller devant le juge. C'est pas par rapport à nous, mais juste fais attention à toi. De toute façon, voilà, nous on est de votre côté, mais c'est une radio. Voilà.
Je voulais juste dire un truc, c'est surtout, tu vois, là tu parles des caméras, et moi il me semble ils ont mis du temps, non, pour le copain qui a essayé de se suicider sur les barbelés, alors que pour une tentative d'évasion, les caméras elles servent en fait là tout d'un coup, tu vois.
Franchement, moi personnellement, je voulais pas m'évader, donc j'ai aucun
problème. Ouais, ça t'inquiète.
Même si je suis à la radio, franchement, moi, personnellement, j'ai rien à me reprocher. Parce que les policiers m'ont interrogé, j'ai dit la vérité, et voilà, moi, j'ai rien à me reprocher.
En même temps, tu vois, vu les conditions de merde dans lesquelles vous êtes retenus, personne qui essaie de s'évader n'a rien à se reprocher, plus généralement, parce que, c'est déjà un système complètement barbare.
C'est trop compliqué, madame, c'est trop compliqué. Moi, déjà... Je suis de nationalité marocaine. Je suis marocain et mon pays ne m'accepte pas chez moi et la France ne m'accepte pas. Et au lieu de me lâcher, ils vont encore envoyer des fax vers la Tunisie, vers l'Algérie, alors que ce n'est pas mes pays. Ça. Moi, franchement, je ne comprends pas. Au lieu de me lâcher, libre, après, moi, je fais ma vie ailleurs. Ils ne veulent pas. Donc ils font tout pour fatiguer les gens, pour donner des castons, et tous les jours ils nous donnent des castons dans la bouffe, dans tout, et après madame on fait que dormir en fait ici.
Voilà. Du coup, pour continuer sur ce qui s'est passé à Lyon, moi j'avais envie de lire, ça va être un peu long, mais le compte-rendu du procès des quatre personnes qui ont tenté de s'évader. Parce que je trouve que c'est assez hallucinant sur le mépris de la justice du procureur et même des avocats commis d'office. Du coup, c'est un article que vous pouvez retrouver sur le site Mutu de Lyon qui s'appelle Rébellion, qui s'appelle Un chien, on l'enferme chez vous pendant 48 heures, il va tout faire, même il va se suicider. Du coup, ces personnes ont pris 4 mois ferme de prison. Et bien évidemment, ils avaient essayé de les juger en comparution immédiate dès le 18 avril. Il y avait une des personnes qui avait refusé la comparution immédiate pour raison de santé, parce qu'elle a la maladie de Crohn, ce qui n'a pas empêché, en attendant leur procès, de se faire enfermer à la maison d'arrêt de Villefranche. Du coup, le compte-rendu de l'audience du 3 mai, on reproche aux quatre personnes une tentative de soustraction et une mesure de rétention administrative le 13 avril, et pour deux d'entre elles, la dégradation ayant causé un dommage grave dans le mur du centre de rétention. Dégradation commise par plusieurs personnes en qualité d'auteur ou de complice. Le juge résume les faits. À 17h45, le 13 avril, l'alarme du CRA se déclenche. Deux flics arrivent et voient un trou creusé dans un mur extérieur donnant sur une coursive. Les flics voient trois personnes en train d'escalader et une qui repasse à l'intérieur du CRA. Tous seront interpellés. Du coup, la juge montre des photos, vue aérienne et plan du CRA avec matérialisation du trou aux assesseurs et décrit le dispositif qui barricade le CRA. Sur la coursive, il y a des haies avec derrière un grillage de 4 mètres et le dernier mètre est constitué de panneaux inclinés vers l'intérieur, eux-mêmes terminés par des herses pointues. Pour le trou, les prisonniers sont servis d'une grille de caniveau pour creuser un mur de 45 cm qui est fait de parpaings, plâtre et moellons. Le trou a été creusé dans le mur d'un local que la juge qualifie de salle de détente avec une machine à café. Elle continue sa rubrique TripAdvisor de ce qu'on croit être un Club Med et parle d'une sorte de sas qui permet d'accéder à une cour de détente. Pour rappel, outre le fait que la machine est en service, c'est précisément dans ce local et dans cette cour que les détenus du CRA subissent régulièrement la répression, où ils sont parqués, matraqués et gazés. La vidéosurveillance permet aux flics de se repasser toute la scène qui a commencé vers 13h30 et elles identifient des personnes avec une responsabilité bien marquée. Celles-ci vont être poursuivies selon une autre procédure et seront jugées prochainement. La juge mentionne que les prisonniers ont fait beaucoup de bruit au prétexte d'encourager un match de foot pour essayer de couvrir le bruit du trou en train d'être creusé. Alors, les quatre personnes ont reconnu l'effet de tentative d'évasion et la juge ne peut s'empêcher d'ajouter « il était difficile de faire autrement ». Elle interroge ensuite chacun, elle appuie sur le fait que le PV mentionne que l'un soit repassé à l'intérieur en voyant la police et qu'il est cassé. Le détenu se défend de l'erreur de traduction, la juge coupe court, l'interprète a dit ce que vous lui avez dit, il n'a pas inventé. Un autre explique qu'il était arrivé depuis 40 minutes au CRA et qu'il n'a rien à voir avec ça. La juge s'adressant à D qui a choisi de se défendre lui-même. Concernant votre participation au fait, vous êtes blessé en tombant du grillage, vous n'êtes pas parvenu à l'escalader. Vous dites que vous avez entendu parler de l'évasion qui était en projet en début d'après-midi. Vous contestez avoir participé aux dégradations où vous avez vu le trou se creuser. Vous reconnaissez par contre que vous y êtes intéressé, que vous avez fait du bruit, que vous avez donc évidemment participé à cette tentative d'évasion qui a échoué. Alors qu'est-ce que vous souhaitez dire ? Je voulais dire que je ne suis pas d'accord avec l'avocate. Pendant la garde à vue, on m'a posé des questions. Sur quoi vous n'êtes pas d'accord ? Je ne suis pas d'accord parce que c'est pas ce que j'ai dit, ce qui est écrit. Moi, j'ai pas participé à la dégradation, et eux, ils ont écrit que j'ai participé à la dégradation. Il y a beaucoup de choses, j'avais une avocate à côté de moi, j'ai demandé, j'ai dit, je n'ai pas dit ce qu'il a écrit. 3 fois, je l'ai dit à l'avocate. Tout ce qui est écrit, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai pas eu accès à mon dossier, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas vu mon dossier. Je sais pas ce qu'on me reproche, j'ai pas eu de réponse, j'ai refusé d'avoir un avocat. Et pourquoi vous avez refusé? Parce que j'ai perdu confiance. Il parle de son PV de garde à vue. J'ai lu ce qui était écrit 3 fois, je lis, j'étais pas d'accord. 2e fois, je relis, j'étais pas d'accord. 3e fois, elle est pas intervenue. Et puis à un moment donné, elle m'a dit, ça commence à bien faire. Voilà l'avocate ce qu'elle m'a dit, donc j'ai refusé d'avoir un avocat. Enfin, c'est assez hallucinant sur l'importance en fait d'avoir des réseaux d'avocats qui sont... Parce que les avocats commis d'office n'en ont rien à foutre et font vraiment de la merde, quoi. Du coup, ça continue. Le juge lit le PV de la garde à vue sans tenir compte du fait qu'il contexte les propos qui lui sont attribués. Il répond en insistant sur le fait qu'il a vu le trou par hasard, qu'il n'était pas assez grand pour laisser passer quelqu'un à ce moment et qu'il n'a en aucun cas participé aux dégradations. La juge continue à lire le PV qui sous-entend qu'il a participé en couvrant le bruit de la grille. La personne réussit à reprendre la parole. Par rapport à l'évasion, n'importe qui, il a un chien chez lui qui le ferme pendant 48 heures, il va tenter de s'évader. L'être vivant, c'est comme ça. Moi, je suis un être vivant. J'ai été en prison. De prison, on m'a envoyé en centre de rétention. C'est la première fois de ma vie que je suis enfermé. Donc moi, je pense et je crois, il n'y a rien qui va changer. Je crois profondément que c'est dans mon droit d'essayer de s'évader. Parce que je me sentais pas libre. N'importe qui va chercher sa liberté. Moi, j'ai voulu chercher ma liberté. C'est dans les droits de chercher ma liberté. La juge tente de l'interrompre, mais il ne lâche pas. Mais moi, de mon point de vue personnellement, j'ai pas fait un délit. Je vois pas pourquoi aujourd'hui je suis en prison. J'ai cherché que ma liberté. La juge l'interrompt, triomphale, et dans un rire de dédain. Eh bien, précisément, monsieur, c'est un délit. Il ne se laisse pas déstabiliser et poursuit. Un chien, on le met chez vous pendant 48 heures. Il va tout faire, même il va se suicider. Il va pas rester enfermé. Moi, je suis pareil, je suis un être vivant. Voilà, il y a des gens qui peuvent être incarcérés. Moi, je peux pas être incarcéré. La juge s'impose et dans un ton condescendant et moralisateur fait la leçon. Alors je vous explique une chose, si vous ne comprenez pas la différence entre un chien et un être humain, le chien ne connaît pas la loi et vous, vous la connaissez.
C'est la seule différence.
On en a fini avec les faits, je n'ai pas de questions. Bon alors voilà, l'audience continue sur les questions portant sur la responsabilité. La juge insiste lourdement, aidé par le proc, bien évidemment, sur les casiers judiciaires, les consommations potentielles d'alcool et de drogue. On apprend qu'une personne s'est vue refuser un suivi psychologique et un traitement au diazépam a été administré à deux détenus. Le diazépam, c'est anxiolytique lourd. Pour info, une utilisation prolongée de ce médicament peut entraîner un risque de dépendance. Alors après, la juge continue sur la situation professionnelle avec cette perle qui fait réagir la salle. J'ai juste dit que vous allez travailler sur des chantiers. J'ai pas dit que vous étiez sans emploi. J'ai dit effectivement que vous êtes sans emploi depuis que vous êtes au centre de rétention. Bah oui. Et ensuite, il y a le procureur qui revient sur la terminologie du mot évasion. Parce que le terme d'évasion, il peut pas s'appliquer dans le cas d'un centre de rétention. D'où l'infraction retenue, tentative de soustraction en réunion à une mesure de rétention administrative. Et le proc, il dit, mais bon, sociologiquement, ça ressemble quand même beaucoup à une évasion. Du coup, le droit, hein, on s'en fout. Il décrit alors minutieusement comment les prisonniers ont franchi le trou et va même jusqu'à parler de personnes essayant de passer le grillage avec des cordes de drap nouées, comme on peut le voir dans des bandes dessinées ou dans des films. Enfin bref, c'est tout cet article, il est hallucinant de mépris, de mépris du droit, quoi. C'est affligeant, quoi. Juste, il y a quand même l'avocate de la défense, parce qu'il y a trois personnes qui, entre-temps, ont réussi, je pense, par des réseaux, à avoir une avocate qui... Du coup, la plaidoirie de l'avocate, elle dit ils ont été placés en garde à vue pour une tentative d'évasion qui a été requalifiée en tentative de soustraction, puisque l'évasion doit être pour un détenu de se soustraire à la garde à laquelle il est soumis. Et un détenu, c'est quelqu'un qui est soupçonné d'avoir commis une infraction pénale ou qui en a commis une. Et les retenus ne sont pas des détenus. On l'oublie, je crois, souvent. On l'a oublié un petit peu dans le cadre de cette procédure et ça pose question puisque quel que soit leur antécédent judiciaire, ils sont au centre de rétention administrative car ils sont présents sur le territoire sans autorisation. C'est le seul tort qu'ils ont commis. Je sais pas quoi dire de plus à part que...
Bah non mais c'est vachement important de parler des luttes qui se passent parce que là en fait tout ça fait système. Entre une justice qui va avoir le même discours que la police, qui va avoir le même discours que l'État au plus haut niveau, avec des discours, en fait, après des politiques complètement racistes, en fait, derrière. La France se fait taper sur le doigt depuis des années par les instances internationales, etc. On vit dans un pays qui se revendique État de droit, démocratie, etc. Dans la réalité, c'est de l'abus d'autorité sans arrêt, tous les jours, des conditions complètement inhumaines. en prison, dans les CRA, dans les HP, etc. Voilà. C'est hallucinant, quoi. Bon.
Moi, si, peut-être ce que je peux rajouter, là, c'est qu'en plus, aujourd'hui, la durée maximale, du coup, elle est passée à 90 jours. Pour certaines personnes avec des enfants en bas âge, qu'il y a un rapport de la contrôleure générale des lieux de privation de liberté qui a été publié le mois dernier, qui qualifie le passage sur les CRA d'absolument affligeant, les conditions de rétention insatisfaisantes, personnel insuffisant, conditions matérielles d'hébergement déplorables, locaux vétustes, exigus, mal entretenus, sales, accès aux soins insatisfaisants, agents non formels à la gestion de ces publics, utilisation systématique des menottes pour tout déplacement. Enfin, c'est.
Ouais. Je pense que faudra qu'on revienne hein, sur ces situations-là. Parce que derrière, en fait, bon, vite fait, hein, moi j'ai lu un livre là, de Mathieu Rigousse. Bon, c'est sur la police, la domination policière, mais il y a un petit passage où il va parler des prisons. Et il va parler du business en fait qu'il y a depuis 20 ans. C'est venu des États-Unis, ça a été appliqué en France. En fait, il y a une double logique. On est en train de criminaliser toute une partie de la population. Alors bien sûr, les Noirs, les Arabes, les étrangers, mais aussi en fait globalement les classes populaires. En plus de ça, il y a l'état d'urgence qui existe depuis des années maintenant, qui, pareil, vont permettre en fait en amont de ficher des gens et de les foutre en prison pour n'importe quoi, tout et n'importe quoi. Et derrière, en fait, il y a aussi la logique du marché, la logique du libéral pour construire des prisons, gérer les prisons, etc. En fait, c'est un système complètement dingue entre d'un côté de plus en plus autoritaire, voilà, politiquement assumé, raciste, hein, soyons clairs, et une autre logique de marché. De marché parce que c'est un business, en fait, pour les Eiffage, pour les Bouygues et compagnie, c'est un business de gérer des prisons, de construire des prisons, de les gérer. Bon, voilà, c'est affreux.
Mmh. Et pour finir, j'avais envie de parler de ce qui s'est passé du coup plus proche de chez nous, à Rennes. Du coup, il y a eu une révolte incendiaire au centre de rétention de Saint-Jacques-de-la-Londe lors de l'expulsion d'un migrant dans la nuit de jeudi à vendredi dernier. Aux alentours de 3h du matin, en fait, les flics sont entrés dans les bâtiments de centre de rétention expulser une personne sans papier en le mettant de force dans un avion. Du coup, la personne a été finalement renvoyée dans son pays, mais cette expulsion, pour une fois, elle s'est pas passée dans le calme. Voilà, il y a une révolte. Ils ont foutu le feu à des matelas, tout ça. C'est plus proche de chez nous, c'est à Saint-Jacques. Il y a moyen d'essayer de prendre des nouvelles et parce que bon, déjà on imagine que ce qui va se passer pour les personnes qui sont révoltées, et puis c'est peut-être plus possible de prendre des nouvelles, d'organiser des rassemblements, d'aller faire des parloirs sauvages à côté du centre de rétention. Voilà. Et puis pour avoir plus d'infos du coup sur ce qui se passe dans les CRA, il y a moyen d'écouter L'Envolée du coup toutes les semaines.
Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ils ont un site internet qui est vachement bien fait.
Ouais. Donc, il y a aussi, ça concerne un peu plus ce qui se passe dans les CRA en région parisienne, un blog qui s'appelle Abat les CRA sur noblogs.org. Et à Lyon, il y a aussi un blog qui s'appelle Crame ton CRA Lyon, tout attaché, .noblogs.org. Voilà.
Et puis, on met les liens, ouais.
On mettra les liens et puis on essaiera d'en reparler dans les prochaines midinales, donner des nouvelles un peu.
Ouais, ça, et puis aussi, sans doute, on commence à en parler, de dire que sur l'année prochaine, sur Radio Piquet, on pourrait aussi diffuser les émissions de L'Envolée. Bon, c'est bien, ça va être dur de faire une transition. Bah, du coup, on fait une petite bulle plus légère pendant 3 minutes. Donc, c'est Mathilde qui nous a envoyé sa petite chronique. Et la chronique du mois de mai parlera de la BD Fatma au parapluie de, et je vais mal le dire, je suis désolée, Mahmoud Benamar et Soumeya Wareski. Mais Mathilde le dira mieux que moi.
Tu sais ce qu'on raconte sur la maison des parapluies? Il paraît qu'elle est habitée par une femme. Lalaoum, elle s'appelle. Le jour, elle répare des chaussures et des parapluies. Mais la nuit? La nuit, les masques tombent et Lalaoum révèle son vrai visage. Parfois, la nuit, la lumière est allumée. Et crois-moi, vaut mieux pas savoir ce qui se passe à l'intérieur. Et si tu regardes par la fenêtre, fais gaffe à ce qu'elle ne t'attrape pas. Bonjour à toutes et à tous. Peut-être que certains d'entre vous se souviennent que l'année dernière, à peu près à la même époque, j'avais eu le plaisir de rencontrer l'auteur de bande dessinée Léna Merej pour nous parler de Laban et confiture ou comment ma mère est devenue libanaise aux éditions Alif Bata. Alif Bata est une maison d'édition basée à Marseille dont l'objectif est de promouvoir des œuvres issues du monde arabe et du bassin méditerranéen. Il y a quelques jours est parue une autre merveille d'Alif Bata qui s'intitule « Fatma au parapluie » de Mahmoud Ben Abar et Soumeya Ouareski, traduit de l'arabe par Lofti Nia. Dans ce premier volet d'un diptyque, nous rencontrons plusieurs femmes, toutes prénommées Fatma, habitantes de la Casbah d'Alger, dans leurs tâches quotidiennes. L'une d'entre elles, Fatma au parapluie, semble les connaître toutes, à mesure qu'elle leur rend visite pour leur vendre ses herbes fraîches. À travers les sublimes planches de cette BD, la Casbah nous apparaît comme un lieu palimpseste et labyrinthique, où chaque mouvement est observé, chaque parole est répétée, et où les ragots se propagent comme une traînée de poudre. Une Casbah où les personnages intriguent plus qu'ils ne révèlent, apparaissent et puis disparaissent comme des souvenirs, qui semblent hanter Fatma au parapluie. Quelques planches nous sortent de ces scènes claustrophobiques avec des prises de vue extérieures, des terrasses où jasent les voisines, ou encore du jardin de Fatma au parapluie qui surplombe le port d'Alger. Qui est Fatma? Quelle est son histoire? Et d'où lui vient son surnom de Fatma au parapluie? Et qui est cette vieille femme, Lalaoum, qui répare des chaussures, mais concocte des breuvages destinés à faire naître des garçons? Autant d'interrogations et de curiosités que suscitent ces planches incroyablement belles, denses et privilégiant les plongées, contre-plongées, ou les gros plans sur les mains, les regards, se plaçant parfois dans les angles ou au niveau du sol pour traduire cet endroit mystérieux qu'est la maison au parapluie, qui inspire les enfants de la Casbah à se raconter mille et une histoires plus terrifiantes les unes que les autres. Alors je vous invite à découvrir cette œuvre dense, magnifique, et je vous retrouve le mois prochain pour une dernière chronique.
Et voilà, merci Mathilde. Du coup, moi je vais enchaîner aussi sur un livre. C'est un peu le bordel dans ma tête parce que c'est un livre qui m'a émue beaucoup. Alors, ça s'appelle « Amianto, une histoire ouvrière ». C'est de Alberto Prunetti et c'est aux éditions Agone. Et tout est dans le titre. Donc « Amianto », c'est un livre qui va parler de l'amiante. C'est un livre qui va en parler avec beaucoup d'émotion. Et pourquoi ça me touche autant? Déjà parce que c'est remarquablement écrit, mais aussi parce que c'est quelque chose dont on ne parle jamais à Brest. Et pourtant, vu le travail industriel qui s'y passe, notamment au port, on a quand même pas mal de camarades qui ont failli... avoir leur vie salariée et puis après leur vie de liberté, c'est-à-dire leur retraite. Ils ont failli parce qu'ils sont morts, en fait. Ils sont morts juste après, ils sont morts 2 ans après. Et on n'en parle jamais. Et quand on commence à essayer d'en parler, personne ne veut l'entendre. Les camarades de Damen le savent bien. Ils essaient en ce moment, hein, depuis 3 ans ou 4 ans, de lutter contre des décisions abjectes, à savoir, il y a une loi qui existe en France qui dit que si tu es un travailleur exposé à l'amiante, tu gagnes, alors là, vous entendez les milliers de guillemets que je mets, tu gagnes des années où tu as le droit de ne pas travailler, sauf que cette loi est systématiquement attaquée tout le temps, et que globalement, les travailleurs et les travailleuses exposés à l'amiante ont juste le droit de crever. Et tout le monde s'en fout, en fait. Et donc, ce livre-là, qui est disponible à la petite librairie, j'en avais pas entendu parler, il m'est tombé dans les mains, et donc, Amianto. C'est donc Alberto Prunetti, c'est un journaliste écrivain italien qui, pour la première fois et dans la douleur, va raconter une histoire qui ne lui est pas du tout étrangère, puisqu'il va raconter l'histoire de son père. Son père a été ouvrier dans les années 60 et 70, et il est mort à 59 ans, dans des souffrances et dans des derniers jours atroces, de la maladie due à l'amiante. C'est tout à fait sûr au regard des expertises médicales. Mais par contre, le combat que lui et sa famille peuvent mener pour le faire reconnaître, pour celui-là, il n'est pas gagné du tout. Et c'est le problème que rencontrent tous les gens aujourd'hui qui luttent pour essayer de faire reconnaître leur droit à indemnité suite à des maladies dues à l'amiante. Le livre en question, là, il est tout petit, il fait une centaine de pages. Mais je ne sais pas comment il se débrouille. Il arrive à la fois à raconter son histoire avec son père, son histoire d'amour avec son père, qui à un moment a été un peu séparé, un peu parce que lui, il a fait des études, parce que son père absolument tenait à ce qu'il aille à l'université pour échapper justement à cette malédiction de classe. Et puis finalement, il se retrouve ultra précaire alors qu'il a fait des études. Et donc il va raconter comment son père s'est beaucoup occupé de lui, puis un peu moins, puis comment il pensait différemment, mais comment la maladie et la fin de vie de son père les rapprochent. Il arrive aussi dedans à raconter toute une géographie en Italie, toute une géographie qui est liée à l'industrie. Et pas à n'importe quel moment, c'est dans les années 60, 70, donc les années de plomb, ça aussi il raconte. Il raconte aussi le syndicalisme et comment son père, qui était petit à petit contremaître en étant un ouvrier un peu plus qualifié, un peu mieux payé, a eu une tentation à un moment de se désolidariser. Des ouvriers, enfin de la plus grosse masse des ouvriers, comment il a été délégué syndical aussi, comment il en est bien revenu. Donc en fait, c'est tout ça qui se trouve dans ce livre. Et c'est assez impressionnant, c'est vraiment un très très beau livre. Et je vais juste, j'en lis des passages, ça va être un peu long, mais c'est vraiment très beau. Je vais lire le premier chapitre qui s'appelle « Qu'est-ce qu'il fait froid ?» J'aurais voulu que cette histoire ne soit pas vraiment arrivée. Comment dit-on ? Le fruit de l'imagination de l'auteur. C'est pourtant la réalité qui a frappé aux portes de ces pages. L'imagination a rempli les trous comme un stuc de mauvaise qualité et a redessiné certains épisodes pour mieux reproduire les événements d'une vie et d'une mort, d'une biographie ouvrière. Le récit devrait tenir comme un raccord de beaucoup de tubes de toutes sortes. Lui disait toujours « Mets de la filasse, ça tient mieux que le téflon ». Fais seulement attention à respecter le sens du filetage et lis le tout au doigt avec du mastic vert. Ensuite, serre avec force, mais sans méchanceté. Il ne doit pas fuir. J'ai fait comme ça avec le stylo. J'ai essayé de respecter le filetage de l'histoire, sans aller plus vite que les événements, sans étranglement. J'ai utilisé le mastic de l'imagination et j'ai serré sans méchanceté, mais avec décision, l'ordre du discours. Il ne suinte pas. J'ai mis un carton dessous et les larmes ont séché. C'est comme ça qu'il fallait les souder. L'équipement hydraulique des grandes installations et la mémoire des hommes qui ont uni des kilomètres de tubes et d'acier pendant toute une vie. Pour amener la pression du sang dans les canaux de l'existence. Pour la pomper dans les réservoirs de la mémoire et la voir couler jour après jour, goutte à goutte, pour fertiliser une page. Il met une salopette verte et une paire de gants en daim. Il plie un genou en s'appuyant sur la terre graveleuse du chantier. Il empoigne la meuleuse, puis d'un coup de marteau sur la tête d'un tournevis, à la poignée émoussée, dans la direction opposée au sens de rotation. Il desserre l'embout qui fixe la brosse et insère un disque à tronçonner. Puis, de son pouce ganté, il pousse l'interrupteur vers le haut. Tout de suite, la lame commence à tourner à la vitesse de 10 000 tours par minute. Il approche le disque du tube gris. Au contact de la lame, le bruit change. il se transforme en un hurlement métallique, suivi d'une explosion d'étincelles et de la projection vers le haut d'une douche sèche de particules fibreuses et régulières. Ce sont de petits dards cristallins, des éclairs invisibles capables de descendre le long de l'œsophage, de se laisser glisser dans les poumons et de rester attachés à la plèvre pendant 20, 30, 40 ans même, produisant une blessure mal cicatrisée, dont l'organisme ne réussit pas à venir à bout et qui engage un processus de dégénérescence cellulaire, une tumeur. Il déploie une rallonge industrielle qui se déroule le long du périmètre d'une citerne pleine d'hydrocarbures. Le terrain est couvert d'huile dense et visqueuse, d'un noir ayant viré au cobalt. Il relie la soudeuse au câble électrique, fixe la pince à un élément en métal, insère une électrode dans la seconde pince, puis la pose par terre. De sa main gauche, il empoigne un masque de soudeur et l'approche de son visage. Un autre ouvrier saisit une bâche gris sale et la déroule au-dessus de lui. Maintenant, il est dans le noir complet. De la main droite, il empoigne la pince, il approche l'électrode de métal. La lumière jaillit, violente, amortie par le vert fumé du masque. Des étincelles pleuvent depuis la pointe de l'électrode qui se consume rapidement, faisant fondre et se transformer en grumeaux, un métal autour d'un autre métal. Lorsque l'électrode est complètement fondue, l'homme, toujours sous la bâche, saisit le marteau, et dans l'obscurité, il devine facilement le grumeau encore incandescent, mais déjà solidifié. Il tape sur le grumeau avec la tête du marteau et casse l'écorce de scorie autour du point de soudure. Soudé à quelques centimètres d'une citerne de pétrole, un travail dangereux. Une seule étincelle est capable d'amorcer une bombe, qui peut emporter une raffinerie. C'est pour cela qu'on vous dit d'utiliser cette bâche gris sale qui résiste aux températures élevées, car elle est produite avec une matière légère et indestructible, l'amiante. Avec elle, les étincelles restent prisonnières, et vous, vous restez prisonnier avec elles. Et sous la bâche en amiante, vous respirez une substance libérée par la fusion de l'électrode. Une seule fibre d'amiante, et dans 20 ans, vous êtes mort. Donc ça commence comme ça. Après, il va mettre en forme, raconter toute la vie de son père, tous les moments aussi de la vie ouvrière, où en fait, à chaque fois qu'il se passe quelque chose socialement autour, c'est comme dans le livre d'Édouard Louis, à chaque fois qu'il y a un événement politique, c'est comme si le corps de son père, au départ, il devient bionique. Il a des dents toutes neuves, il a des lunettes, il a un appareil auditif. Et puis petit à petit, après, il y a tout qui s'effondre, il y a tout qui lâche, quoi. Et c'est, à chaque fois, c'est relié. À chaque fois, il le relie à des événements politiques et aussi à une géographie de l'Italie qui s'effondre et qui ramasse, quoi, et qui devient des zones complètement infestées, complètement mortes. C'est vraiment remarquablement écrit. Et je lis juste un tout petit passage de la fin. Enfin, un tout petit, non, c'est pas vrai. Un passage de la fin. Telle est son histoire. L'histoire ouvrière d'un type quelconque. Une histoire comme il y en a tant. De gens qui ont grandi dans l'après-guerre, ont contribué, à leurs propres dépens, au boom économique italien. Ont passé la crise pétrolière de 1973 en vivant sur leurs propres deniers et sont morts au début du nouveau siècle, tombés malades après avoir cessé de travailler. Tués par un terrible serial killer qui sévissait à Casala, Monferrato, à Tarente, à Piombino et dans des dizaines d'autres lieux. Un homme qui a commencé à gagner son pain à 14 ans, qui est entré en usine sans plus jamais en sortir vraiment, parce que le chantier industriel avait nidifié dans ses cellules sa propre charge négative. Un homme qui a été contraint, pour des raisons professionnelles, d'exposer son propre corps à toutes sortes de métaux lourds. Un travailleur qui a vu les conditions de sécurité dans les chantiers se dégrader, chaque jour un peu plus. Un père qui a fait étudier ses enfants avec la trompeuse conviction que les envoyer à l'université était une façon de les faire sortir de la subordination de classe. Un type qui enfilait des gants d'amiante, une combinaison d'amiante, et se mettait lui-même sous une bâche d'amiante, parce qu'il fondait des électrodes qui crachaient des étincelles à quelques pas de gigantesques citernes de pétrole et que sous sa bâche, il respirait du zinc et du plomb, jusqu'à se tatouer une bonne partie de la table des éléments de Mendeleïev dans ses poumons. jusqu'à ce qu'une fibre de cet amiante qui l'entourait comme une cage ne trouve le chemin vers son thorax et y reste pendant des années. Et puis, une fois clos son livret de travail, cette fibre a commencé à noircir ses cellules, corrodant la matière neuronale, de l'épine dorsale jusqu'au cerveau. Une rouille qu'il ne pouvait poncer. Des lésions cérébrales qu'il ne pouvait souder. Voilà. C'est très très beau. Ça s'appelle Amianto, une histoire ouvrière. C'est de Alberto Prunetti et c'est aux éditions Agone dans la collection Mémoire sociale. On est bien ?
On est bien. Quand on est bien.
On est bien. Bah après, les mots de Prunetti, ils sont vraiment très beaux. Ils sont durs, mais c'est beau. Et une fois qu'on a lu ça, on est toujours aussi révolté, mais on est un peu mieux quand même parce que. Enfin, je sais pas comment dire, mais c'est ça accompagne quoi. C'est la littérature. On est mieux après. On fait une pause musicale. Du coup, dans la pause musicale, on va écouter le générique
de l'envolée.
De l'envolée, et on va écouter
Cazet,
sac de sucre.
Cellule au premier étage. Je travaille en centrale pour tous mes petits braquages. À 4h du matin, je pionce dans mon lit. Soudain, la sirène gueule et quelqu'un pousse un cri. Y'a du partout dans la tour. Y'a du bastou dans la tour. Y'a du bastou dans la tour. Qu'a fait les mecs, ça va saigner. Sont commencés à l'aile gauche de la tour. Déjà tous mes potes mettent à saccager les pios. J'ai dit allez les mecs, on se paye une petite fête. Fait j'arrive les lardus avec des mitraillettes. Et y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Gaffe les mecs, ça va saigner. Sortez de la bande de rats. C'est un temps pour l'armée si vous arrêtez pas. Tu lâches le radis, je préfère encore crever. On a des allumettes, on va tout faire cramer. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Qu'a fait les mecs, ça va saigner. Dans les gaz suffocants. On a tous dérouillé, mais maintenant de temps en temps, y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Qu'a fait les mecs, ça va saigner. Allez avec moi. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Qu'a fait les mecs, ça va saigner.
J'ai été poursuivi, asservi, enlevé à l'Afrique et livré. Le matin au lever, j'accomplis mes corvées et ma vie est rivée. Y'a pas de champ de canon jachère. Tous les jours on y laisse et sa sueur et sa chair. Et nos pauvres corps meurent sans repos ni fraîcheur, avec chapeau et foulard pour contrer la chaleur. Descendant de ces féroces croisières négrières, on garde force et courage en chantant à plusieurs. Il n'y a pas que le salaire pour creuser nos malheurs. Nos anciens tortionnaires sont nos nouveaux employeurs. Après avoir brûlé les barrières, arraché la lanière du fouet, levé les paupières vers la lumière et venir embrasser le rêve d'une vie meilleure où le nègre y serait une bannière à ses propres couleurs. On a mangé la poussière de la pire des manières, peu fier de retourner dans la plantation d'hier. La mer est une frontière, comment aller ailleurs? Désormais libre, ouais, mais toujours inférieur. J'ai été poursuivi, asservi, enlevé à l'Afrique et livré pour un sac de sucre. Le matin au lever, j'accomplis mes corvées et ma vie est rivée à un sac de sucre. J'ai été poursuivi, asservi, enlevé à l'Afrique et livré pour un sac de sucre. Le matin au lever, j'accomplis mes corvées et ma vie est rivée à un sac de sucre. Où va le fruit de mon labeur? La douleur de mes bras et mes lombaires, la lourdeur de mes jambes et toutes ces longues heures à ratiboiser la canne pour battre ma misère. Et les blancs sont aisés, malins et rusés, ont belle maison et timoun scolarisé, soi-disant qu'il ne faut rien leur refuser. Moi j'ai la peau sur les os, sous une chemise usée. J'ai aidé les voisins, rassemblé mon réseau. J'ai sorti mon coutelas, aiguisé mes ciseaux et pris la décision, sans trouble ni confusion, de baptiser le béquet d'une belle incision. Malfaisant, insolent, sur son trône installé, estimant comme son bien des terres qu'il a volées. Son destin sera le mien dès qu'il sera esselé. Il va entendre et comprendre et il pourra bien gueuler. Je laverai l'affront, je vengerai l'Afrique, les fonds de cale et le travail forcé à coups de trique. Et si le rhum et l'argent coulent à flot, c'est que j'ai un sac qui pèse un massacre sur le dos. J'ai été poursuivi, asservi, enlevé à l'Afrique et livré pour un sac de sucre. Le matin au lever, j'accomplis mes corvées et ma vie est rivée à un sac de sucre. J'ai été poursuivi, asservi, enlevé à l'Afrique et livré pour un sac de sucre. Le matin au lever, j'accomplis mes corvées et ma vie est rivée à un sac de sucre. Combien de massacres pour un sac de sucre? Ma vie se consacre à porter ma misère dans un sac de sucre. Combien de massacres pour un sac de sucre? Ma vie se consacre à porter ma misère dans un sac de sucre.